Bienvenue sur Déclic Responsable, le podcast qui éveille les consciences sur les impacts du numérique, qu'ils soient environnementaux, sociaux, sanitaires ou encore éthiques, et valorise les réflexions et alternatives qui permettent d'imaginer et de réaliser un monde numérique plus juste et durable. Salut et bienvenue à toi dans cette mini-série du podcast Déclic Responsable dédié aux bibliothèques. Pour cette mini-série, nous t'avons préparé 3 épisodes dans lesquels tu pourras découvrir l'ensemble des actions menées par des bibliothèques aux 4 coins de la France, au regard de l'éducation, l'inclusion et de la sobriété numérique. En effet, la transformation numérique dans nos sociétés a poussé les bibliothèques à devenir de véritables lieux de médiation numérique, pour outiller, former et développer l'esprit critique des citoyens et citoyennes. Je ne t'en dis pas plus et te laisse en compagnie de Perrine et des bibliothécaires travaillant sur le sujet. Bonne écoute!
Déclic responsable. Sharing is caring. Pour cette deuxième partie, cet épisode 39.2, nous avons eu le plaisir d'interviewer Jean-Marie Fertet. Avec lui, nous sommes rentrés dans les détails des actions des bibliothécaires sur les sujets de l'éducation aux médias et à l'information, soit EMI, et de la culture scientifique, technique et industrielle, soit CSTI. Pour commencer, on a demandé à notre invité Jean-Marie de se présenter.
Oui, alors je suis bibliothécaire depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. Donc j'ai occupé plusieurs postes. Les premiers ont été très axés sur la conservation et la valorisation du patrimoine écrit. Et puis, au fil du temps, la dimension numérique a pris toujours plus d'importance dans mon parcours. Pendant 4 ans, j'ai été responsable du département numérique d'un gros réseau de médiathèques qui est celui de la métropole de Montpellier. Et puis, depuis l'an dernier, je travaille au service de l'animation et de la formation des réseaux documentaires de... Alors, je vais souvent parler, je pense, au fil des minutes qui viennent de l'ESR. Donc, c'est un acronyme qui signifie Enseignement supérieur et recherche. Donc, voilà, je travaille au service des réseaux documentaires de l'ESR au sein d'une institution qui s'appelle l'ABES, Agence bibliographique de l'enseignement supérieur, et qui est, elle aussi, située à Montpellier. Donc, voilà, en parallèle de ça, parmi différents engagements associatifs, j'ai rejoint, juste après sa naissance, à l'été 2022, la commission Bibliothèque verte de l'ABF, alors désolé, encore un sigle, c'est l'Association des bibliothécaires de France. Donc c'est un peu à ces différents titres que je m'exprimais. J'essaie de conserver dans une vision des deux versants du monde des bibliothèques que j'ai pu avoir au fil de mon parcours, donc à savoir la lecture publique, pour faire simple, quand on parle de lecture publique, en gros, c'est les bibliothèques municipales et départementales, et le monde universitaire, donc là encore pour schématiser, on va dire les BU, les bibliothèques universitaires.
On a ensuite cherché à savoir quel était le cheval de bataille de Jean-Marie en ce qui concerne le numérique en bibliothèque.
J'en ai plusieurs, je ne vais pas pouvoir les unifier sous une même bannière ici. Dans la commission Bibliothèque verte, je m'intéresse particulièrement à la sobriété numérique et à sa médiation. Mais pour notre échange, je vais mettre davantage l'accent sur une conjonction qui, à mon avis, est essentielle pour comprendre et pour donner du sens au phénomène numérique. Donc, c'est le trio médiation numérique, EMI, CSTI. Alors, désolé, encore des sigles. EMI, derrière EMI, je veux parler de l'éducation aux médias et à l'information. Et derrière le sigle CSTI, je veux parler de la culture scientifique, technique et industrielle. Entre 2019 et 2022, j'ai parlé des 4 années où j'étais responsable du département numérique des médiathèques de Montpellier. Donc, ce département avait intégré dans la même escarcelle des services techniques, donc des collègues qui s'occupaient du site web, des ressources en ligne, du parc informatique et des régies audiovisuelles, etc. Le tout étant presque intégralement numérisé. Mais ça intégrait également 3 branches de services de médiation. Donc, ces 3 branches étant culture numérique, EMI et CSTI, justement. Donc, culture numérique, derrière ça, j'entends, il y avait un bébé Fab Lab, un mini Fab Lab qu'on venait de créer et qu'on a baptisé La Fabrique au sein de la médiathèque centrale. dont le but est de mettre à disposition des outils, des ressources, des temps de partage, des ateliers, des formations courtes pour diffuser les cultures numériques pour tous les niveaux et dans tout leur éventail. Ils s'occupent également d'inclusion numérique et d'éducation aux médias et à l'information. Et donc, en plus de ça, il y avait un service qui était alors et qui est d'ailleurs toujours actuellement en cours de construction, consacré à la culture scientifique, technique et industrielle, qui est en réalité une situation un peu plus rare dans le monde des médiathèques jusqu'à présent. Donc cette conjonction numérique EMI-CSTI, en fait, elle appelle des compétences techniques, et notamment de médiation, qui sont parfois assez similaires, et qui dans tous les cas sont intéressantes à rapprocher. Il y a des points de contact manifestes, hein, le médium numérique est devenu central partout autour de nous. Autre point de contact, c'est l'importance de l'esprit critique, de la méthode scientifique, du repérage des biais cognitifs. Tout ça tisse finalement des points communs entre ces trois pôles qu'on avait, au point de vue de l'organisation, décidé de réunir. Et puis, alors depuis l'an dernier, je suis du côté enseignement supérieur et en bibliothèque universitaire. Ces différents enjeux, ils existent également, mais on les a plutôt regroupés sous des vocables différents. On parle plutôt de compétences informationnelles que de EMI, et on parle plutôt de l'enjeu science et société, d'autre part, avec, alors par exemple, il y a un label qui a été créé par le ministère de l'Enseignement supérieur en 2021 qui s'appelle SAPS, Science avec et pour la société, qui vient soutenir des projets dans les universités et notamment dans des BU. Les bibliothèques étant vues comme des portes d'entrée hein, vers les démarches de science et société. Et voilà, il y a besoin de favoriser des espaces de médiation et les bibliothèques où les postes bibliothèques sont là pour porter ces missions-là. Alors pourquoi je dis postes bibliothèques? C'est parce que pendant 10-15 ans, on a souvent cessé de parler de bibliothèques universitaires et on a eu tendance à parler de learning center, un anglicisme hein, qui vise à, en fait, derrière ce terme, mettre en avant l'objectif d'élargir le focus sur la question justement des compétences informationnel et de l'apprentissage de ces compétences informationnelles au sens large. Derrière cette conjonction EMI-CESTI, ce que je voudrais dire, c'est que quand on essaie de définir le numérique au singulier, on pense d'abord à ses fonctions, c'est-à-dire c'est un vecteur de communication, d'information, ça sert à de l'optimisation logistique, voilà, notamment. Mais plus profondément, il s'agit de comprendre et de faire comprendre. Et là où il s'agit de progresser en compréhension, c'est que le numérique, en fait, il correspond à une nouvelle étape de l'histoire des connaissances humaines, dont les bibliothèques sont un peu les institutions porteuses ou cherchent à l'être, une nouvelle étape dans l'histoire des technologies cognitives, pour employer un grand terme. Donc voilà, dans la situation des bibliothèques, dont le but est d'embrasser le plus largement possible le champ des savoirs, il est vraiment important de ne pas arriver avec des politiques de service en matière de numérique qui soient myopes. J'entends par là, qui ferait croire qu'on fait de l'EMI juste en proposant des ateliers, mettons fake news sur des réseaux sociaux. Évidemment que c'est important, mais ça doit d'abord s'intégrer dans une politique documentaire et culturelle générale qui sache prendre en compte finalement tous les champs des sciences et des savoirs. Sinon, il y a des gros risques d'avoir une médiation numérique qui... même avec plein de bonne volonté et plein de gestes responsables, n'est pas la profondeur nécessaire d'esprit critique. Ce qui fait qu'on passerait à côté de ce qui joue et qu'on vienne juste accompagner, même juste prolonger les discours de ceux qui font déjà le monde du numérique à l'heure actuelle avec leur prisme et leurs intérêts aussi.
Pour aller plus loin, on a demandé à Jean-Marie de nous donner des exemples d'actions concrètes menées auprès du public des bibliothèques et médiathèques.
Pour ce qui est des actions en bibliothèque, je voudrais souligner plusieurs choses importantes en préambule. C'est que les bibliothèques en France, et notamment les bibliothèques publiques, c'est très important d'avoir en tête que c'est le lieu culturel le plus fréquenté et le plus fréquent de notre territoire. Ça forme un maillage très dense de lieux de médiation, de partage, où finalement s'expérimente encore le vivre ensemble, qui est quand même, on peut le dire, un point de tension clé dans notre société, avec une tendance à la multiplication des isolats de vie et de pensée. Et voilà, les bibliothèques, elles s'efforcent de continuer à faire se côtoyer et échanger des gens qui, sinon, ne se croisent jamais. Alors évidemment, il n'y a pas que les bibliothèques pour ça, bien heureusement, mais c'est quand même une de leur réalité et même de leur fonction. Et en matière de numérique, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que c'est le premier lieu auquel les Français pensent quand il s'agit de requérir une médiation humaine en matière de numérique. Donc, l'accompagnement aux démarches administratives en ligne, par exemple, voilà, c'est une réalité. Dans un certain nombre d'endroits, ça se passe dans des bibliothèques. Et puis, sur les campus aussi, hein, quand on parle des universités, les BU, c'est très souvent des lieux de vie, d'apprentissage, d'échange qui sont centraux. Les bibliothèques, que ce soit publiques ou universitaires, c'est des forums de rencontre entre plein de personnes et de partenaires. Voilà. Et les bibliothèques sont aussi c'est des garantes de l'accès et de la conservation de l'information. On parle d'accès et de conservation. C'est le deuxième point, il est important aussi, conserver l'information, parce que c'est un problème aigu hein, à l'heure du numérique et de la surcharge informationnelle. Parfois tendance à mettre au second plan tout ce qui est pérennité, durabilité. Et ça, pour autant, il faut le préserver. Il faut qu'il y ait des professionnels qui s'en occupent. Ça m'évoque une des missions de mon agence, la BES, actuellement. Et c'est la politique de licence nationale, qui est un dispositif d'acquisition de ressources numériques depuis plus de 10 ans, qui vient consacrer un droit d'accès pour tout l'enseignement supérieur et la recherche à d'importants corpus scientifiques qui sont négociés dans le cadre de grands programmes nationaux avec les principaux éditeurs scientifiques, hein, qui sont souvent pas français. Hein, on est vraiment, on parle de l'échelle internationale. Bon, et une fois posées toutes ces données sur l'importance des lieux bibliothèques, enfin des lieux et aussi des actions hors du lieu, parce qu'il y a une dimension hors les murs dans ce que font les bibliothèques, hein, qui est essentielle pour toucher des publics, je voudrais aussi ajouter qu'avec la commission Bibliothèque Verte, qui est une autre de mes casquettes, donc on a adopté une approche de la bibliothèque comme lieu de construction de l'éco-citoyenneté. Et c'est là que ça peut rejoindre la culture scientifique, la CSTI. Il va permettre d'aborder de manière construite les questions d'éco-responsabilité. Ça va permettre d'éclairer, de ludifier parfois, et d'essayer d'amplifier les partages de savoirs et d'expériences, y compris en matière d'écologie. Alors, pour être un peu plus concret sur des exemples d'actions, il existe dans la médiathèque centrale ce qu'on appelle le forum de l'actualité pour réaliser des actions de médiation auprès des publics adolescents et des jeunes. De manière générale, ça s'est fait suite à ce qu'on a appelé le plan EMI en bibliothèque, qui avait été lancé par le ministère de la Culture juste au moment où j'arrivais en 2018. Après, en 2021, il y a eu encore une autre opération importante en la matière. Ça a été le recrutement, mais là, c'était partout en France, encore plus largement partout en France, le recrutement des conseillers numériques France Service à des fins d'inclusion numérique et d'EMI tout à la fois. Ça s'est aussi traduit par l'organisation d'ateliers avec des journalistes et puis par des formes peut-être un peu plus inattendues de médiation. Par exemple, je pense à un dispositif qu'on appelle les JUB, J-U-B, ça veut dire j'emprunte un bibliothécaire. Et bien voilà, on avait mis en place un dispositif d'emprunt de certains collègues. Alors ça se passait sur place dans des bibliothèques, mais bien souvent, le but était tourné autour de l'inclusion numérique et parfois aussi de l'EMI. Et bon, il y avait tout un tas de formes de médiation beaucoup plus classiques qu'on rencontre très souvent en bibliothèque, notamment des ateliers qui vont toucher ce qu'on appelle les publics dits captifs, c'est-à-dire principalement des scolaires avec des ateliers typiquement décryptage de l'information, fake news, etc. Globalement, notre programme de EMI, on a essayé de l'insérer dans une volonté de s'adresser aux trois fractures numériques. On parle maintenant d'une troisième fracture numérique depuis quelques années. Alors, les bibliothèques se sont attaquées dès l'origine aux deux premières fractures, c'est-à-dire faciliter l'accès avec des équipements et des infrastructures numériques, et puis aussi se préoccuper des usages ou des non-usages. Et là, on parle par exemple d'accompagner dans des démarches en ligne. Et puis la fracture de troisième niveau, c'est celle qui concerne les usages problématiques de l'Internet, autour des addictions, des rapports déséquilibrés à la formation ou à l'infobésité, qui vont donc devoir être mis dans un contexte sociétal d'ensemble que les bibliothèques peuvent permettre, je pense, pas seules, hein, mais comme quelques autres grandes institutions qui sont à la fois sur le front social et culturel, vont permettre d'attaquer. Puis je termine par quelques exemples du côté, cette fois-ci, de la culture scientifique. On avait mis en place un festival du film scientifique. On aura aussi eu la participation à la semaine européenne de réduction des déchets. Je l'inclus dans la culture scientifique, pour le coup, ce type d'action. On aura eu aussi des partenariats directs avec des scientifiques. Et je crois que depuis, mes collègues ont mis en place des partenariats avec notamment le cercle FSER. C'est un groupe de scientifiques qui s'engage pour développer le dialogue science et société, qui porte plusieurs programmes, dont un qui s'appelle DICERN, décrypter les informations scientifiques, éduquer par la recherche aux notions d'esprit critique. Et voilà, c'est d'abord conçu pour promouvoir la recherche et ses enjeux auprès des publics scolaires et des jeunes, mais bon, ça a été aussi réfléchi pour être facilement adapté à d'autres publics. En ce moment, pour donner un autre exemple, il y a un appel à résidence de journalistes scientifiques dans les médiathèques, dont l'objectif, c'est de mettre en place pendant quelques mois des actions de transmission par la création de contenu, par l'échange avec les publics captifs et non captifs, faire découvrir la profession de journaliste scientifique et puis accompagner ces échanges et ces formations d'une pratique, d'une réception plus avertie des différents médias autour de la formation scientifique. Je termine peut-être par un tout petit exemple plus du côté des bibliothèques universitaires où l'enjeu de formation et de médiation, il est donc davantage tourné du côté de ce qu'on appelle les compétences informationnelles des étudiants et des chercheurs. Et là, je renverrai aux travaux d'une autre association, l'ADDU, l'association des directeurs et des personnels dirigeants de bibliothèques universitaires, qui a plusieurs commissions, mais dont la commission pédagogie a publié récemment un référentiel des compétences informationnelles, qui est donc destiné aux professionnels et aux communautés universitaires qui sont intéressés par la formation aux compétences informationnelles. Voilà. Donc, c'est en ligne, j'appelle le référentiel de l'ADDU.
On a ensuite cherché à comprendre comment il embarquait ses équipes en interne sur les sujets de l'éducation aux médias et de la culture scientifique, technique et industrielle.
Alors, vraiment, la manière que j'ai à l'heure actuelle, c'est l'engagement associatif. C'est au travers de la commission Bibliothèque Verte d'abord que j'essaie de faire avancer le sujet et de le faire avancer dans le sens d'un alignement avec l'urgence écologique et les impératifs sociaux et environnementaux. Donc je fais en quelque sorte, on emploie le terme d'advocacy, de plaidoyer. J'ai surtout tendance à faire du plaidoyer. Après, dans mon poste actuel à l'ABES, ça va un peu se traduire aussi d'une certaine manière, étant donné que je suis chargé de coordonner les actions de formation auprès de tous les réseaux de bibliothécaires et de collègues professionnels de la documentation en France, dans les réseaux de l'ESR. Directement, j'essaye d'amener aussi ces points d'attention autour des compétences informationnelles et de l'éco-responsabilité tout à la fois. J'essaie de conjuguer un peu ces deux aspects qui semblent assez distincts, voire très distincts de prime abord, mais qui en réalité présentent pas mal de passerelles quand on les regarde de plus près. Le dénominateur commun pourrait s'appeler responsabilité, finalement.
On est ensuite passé à nos questions fil rouge, les questions qu'on aime poser à chacun et chacune de nos invités. Et pour cette première question fil rouge, nos invités de ces épisodes 39 étant bibliothécaires sont donc logiquement les mieux placés pour y répondre. On a donc demandé à Jean-Marie des conseils d'ouvrages à lire pour aller plus loin sur le sujet de l'éducation aux médias.
Oui, alors, poser ce genre de questions à un bibliothécaire, c'est toujours dangereux parce qu'on pourrait, se lancer dans une longue liste, mais je vais essayer d'en dégager quelques-uns là qui me venaient à l'esprit. En bibliothèque, on a deux institutions qui sont plus particulièrement actives autour des missions de la profession en matière de l'ENI. Il y a d'une part la BPI, qui est donc la grande bibliothèque publique de Paris, au Centre Pompidou. Il y a également l'ENSIB, l'École nationale des sciences de l'information et des bibliothèques, qui, elle, est située à Villeurbanne, à côté de Lyon. Donc, je renverrai notamment au site spécifique de l'ENSIB, qui s'appelle emi.ensib.fr, où on trouve notamment pas mal d'entretiens avec des professionnels de la formation et de l'EMI sur ce site dédié. Et on y trouve notamment des replays assez fournis sur la question, les replays des conférences, des journées professionnelles de l'EMI. Voilà. Je pensais aussi, alors plus du côté culture scientifique, CSTI, à une bande dessinée. La bande dessinée s'appelle L'Esprit Critique par Isabelle Beauchamp et Gali, qui va présenter de manière très claire qu'est-ce que c'est que la méthode scientifique, quels sont les biais cognitifs et pourquoi il serait dangereux de croire qu'on peut y échapper. Changer aussi à ce qu'a pu écrire Bernard Stiegler, un penseur du phénomène technique et numérique qui est quand même vraiment complet et intéressant. Il nous a donné des clés sur des questions à la fois de cognition humaine et puis sur la place des techniques, quoi. Alors bon, il a écrit plein de choses intéressantes que je suis loin d'avoir tous lu ou parcouru, mais il y a « Qu'est-ce que penser ?» mais « penser avec un A » en référence à « Qu'est-ce que penser avec un E » de Heidegger, mais où Stiegler va nous inviter à d'abord l'importance de penser par nous-mêmes, en sachant que penser avec un E, c'est aussi penser avec un A, c'est-à-dire prendre soin de la société, de notre environnement, de rappeler que le « je » et le « nous » sont indissociables, que la pensée humaine, elle est foncièrement expérimentale, coopérative, que la technique, elle va être constitutive de la nature humaine, en fait, finalement, qu'elle est construite à partir d'artifices et d'artefacts depuis l'aube des temps. Et voilà, dans le temps actuel qu'on appelle l'Anthropocène, pour Stiegler, l'Anthropocène, c'est une remise en question de notre rapport au savoir, de l'épistémologie de toutes les sciences, finalement, que cette époque va poser. Pour parler aussi de culture scientifique en bibliothèque, j'ai envie de citer mon ancien directeur, David Jonathan Ben-Ruby, qui est donc le directeur du réseau des médiathèques de Montpellier, qui est un grand spécialiste de la CSTI en bibliothèque, justement, et qui a écrit différents articles sur le sujet, qui régulièrement va rappeler qu'il y a eu une scission très française, finalement, entre la lecture publique et la documentation, qui peut expliquer historiquement qu'on a donné trop peu de place à la science en bibliothèque pendant plusieurs décennies, qui a vraiment besoin de remuscler la médiation scientifique et les compétences scientifiques en bibliothèque. Et il a donné l'exemple dans le projet qu'il a mené à Cambrai autour d'un nouvel établissement qui s'appelle le Labo de Cambrai, qui est en fait la nouvelle médiathèque d'agglomération de Cambrai. Ça, c'était son projet des années 2010. Et puis, en ces années 2020, il a donc également en charge à la fois des médiathèques et de la culture scientifique et technique pour la métropole de Montpellier. Je renverrai à ces différents articles, par exemple, dans une publication collective qui s'appelle « Médiatiser la science en bibliothèque ».
On lui a ensuite demandé quel usage il fait du numérique au quotidien.
En fait, le numérique et ses outils, c'est le cœur de mon activité professionnelle. À l'ABS, on rend des services et on propose des outils informatiques à un réseau qui est dans toute la France métropolitaine et outre-mer. Donc il y a beaucoup de questions de traitement de données qui sont de plus en plus massives dans mon quotidien. Il y a beaucoup de services à rendre à distance, d'interfaces de production et de valorisation des données. C'est ce qui fait que je me sens aussi complètement pris au milieu de la problématique de l'attention, de la guerre de l'attention, qui se joue à travers une hyperconnexion qui est un peu normale vu mon travail, mais qui est aussi un peu contrainte, un peu fatale. Chaque jour, je suis 8 à 10 heures devant un écran et je dois bien reconnaître que ce n'est pas l'idéal de vie que je me fixais autrefois non plus. Voilà. Bon, j'ai un usage permanent du numérique, quasi permanent. C'est un numérique plus intrinsèquement vertueux que j'essaie de vrai. D'une part parce que l'agence LABES, l'agence où je travaille à la qualité des données de la recherche et à la qualité des données pour la connaissance publique de manière générale, qui vont répondre aux exigences de ce qu'on appelle le FAIR. Donc FAIR, c'est un acronyme anglais qui veut dire des données trouvables, accessibles, interopérables et réutilisables, et qui donc vont devoir tendre vers des objectifs de politique numérique qui sont fixés par l'État à l'heure actuelle. En bon bibliothécaire de données, notre but, il va être de constituer et de préserver des communs numériques de qualité, avec d'autres acteurs. Hein. Il y a plein d'acteurs associatifs autour de nous, bien sûr, mais là, en l'occurrence, on travaille pour la recherche et l'enseignement supérieur public français.
Jean-Marie étant engagé sur le numérique responsable, on lui a demandé de nous partager ses gestes de sobriété numérique.
J'essaie moi-même de m'informer et de creuser beaucoup le sujet de la sobriété numérique. Donc voilà, ce que j'essaie de faire, c'est, on va dire, d'être un bon médiateur de la question de la sobriété numérique pour permettre de donner autour de moi les clés pour agir. Alors au sein de mon agence, j'espère qu'on va pouvoir cette année construire avec mes collègues ce qu'on appelle un schéma TEDS. Alors les schémas TEDS, c'est ce qui est demandé dans le ministère de l'Enseignement supérieur. Ça veut dire schéma de transition écologique et de développement soutenable. Et clairement, je voudrais y participer très activement. J'espère pouvoir le faire cette année, l'année prochaine. Voilà. Il y aura deux axes majeurs, je pense, à discuter et à négocier collectivement entre collègues. Il y a la question des mobilités, hein, avec un impact carbone qui est souvent majeur dans plein d'unités de recherche et d'expertise. Et puis, il y a la question du numérique, qui est la raison d'être de mon agence et qui est le fondement de ces produits et services et sur laquelle, pour bien se pencher sur cette question, il va falloir qu'on le fasse avec nos institutions sœurs. Par exemple, il y a un centre informatique qui n'est pas à la baisse, mais c'est le CINES, Centre informatique de l'enseignement supérieur, un des grands data centers publics en fait, français avec lequel on travaille étroitement et qui est aussi situé à Montpellier. Donc, pour penser les choses correctement, il va falloir le faire de manière interinstitutionnelle. Donc, voilà. Ça, c'est à titre professionnel. Et puis, alors, à titre vraiment personnel, c'est plein de petits gestes, mais j'essaie de... je reste abonné à des revues papier qui aiguisent l'esprit critique. Alors, j'ai envie de citer une que j'aime beaucoup, c'est la revue Silence, hein, en matière d'écologie, qui n'existe de toute façon pas en version numérique. Puis, j'ai un smartphone qui a plus de 8 ans maintenant, donc chaque anniversaire, c'est une petite victoire. Dans ma veille sur la question de la sobriété numérique, j'ai découvert les travaux d'un collectif que j'aime beaucoup, qui est le collectif Limite Numérique. Parce qu'ils ont produit notamment une étude qui s'appelle « Vivre avec un smartphone obsolète ». J'ai trouvé ça génial, quoi. Ça m'a complètement parlé. C'est-à-dire comment on fait en sorte de contourner des problèmes permanents avec son vieux téléphone, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est un petit geste que j'essaie d'avoir. Puis, évidemment, j'essaie de limiter au maximum l'acquisition d'objets qui vont incorporer de l'électronique quand il y a des alternatives mécaniques qui existent, quoi.
Enfin, on a cherché à avoir sa vision de l'avenir du numérique dans le monde.
Personnellement, je suis un peu entre le pessimiste et le réaliste, je dirais critique, en fait. Voilà. J'essaie d'avoir une vision critique du numérique, c'est-à-dire un peu à la Bernard Stiegler, hein, finalement. Hein, c'est-à-dire ni technophobe, ni techno-béat non plus, bien sûr, mais vraiment un techno-critique au bon sens du terme, c'est-à-dire d'incorporer le numérique dans un ensemble plus global. Le numérique est parfois présenté comme un facteur de convivialité, de sociabilité. Bon, à mon avis, c'est faux en tant que tel. C'est un médium qui est tellement plastique qu'on se rend même à peine compte du fait qu'il n'est pas neutre. Il a des implications dans tous les mouvements de notre monde. Voilà. Je ne crois pas dans un numérique convivial, moi, personnellement. Mais je crois bien davantage dans un numérique dont, à l'avenir, les expressions les plus problématiques, les plus énergivores du côté de on va avoir des écrans de plus en plus grands, on va vouloir utiliser de la réalité virtuelle, de l'IA et des jeux vidéo à toutes les sauces. Bon voilà, moi je crois plutôt à une limitation de toutes ces expressions de la manière la plus sobre et volontaire possible. Après dans mes rêves, hein, mais je pense pas que c'est ce qui se passera, mais j'aimerais que le numérique soit plus souvent concentré dans des points d'accès publics et collectifs, qui pourraient être les bibliothèques notamment. C'est pas du tout le mouvement qu'a pris notre société, mais puis je suis peut-être un peu trop nostalgique d'un temps que j'ai connu où il fallait aller à la mairie du village pour consulter sur le Minitel les résultats du brevet. Bon, voilà, mais en tout cas je suis convaincu que les inégalités d'accès au confort numérique en tant que tel, elles ne vont faire que s'accroître dans la situation à venir avec la raréfaction des ressources et la tension d'accès à ces ressources. Et qu'une fois qu'on va avoir passé la crête de saturation qu'on est en train de vivre complètement actuellement, des lieux publics comme les médiathèques on va s'apercevoir que ça peut être des sentinelles très précieuses pour le monde qui vient, qui est même déjà là, hein, qui, en tout cas qui va venir, je le pense, et qui nous amènera peut-être à relocaliser, décentraliser nos outils numériques et nos réseaux numériques, notre Internet. Et je pense par exemple à des petites initiatives qui émergent un peu partout sur les territoires de... Mais ça n'a rien à voir avec les bibliothèques en l'occurrence, mais des fournisseurs d'accès à Internet locaux qui se développent, des réparateurs et des bricoleurs numériques, des initiatives associatives qui vont se développer en proximité. Donc voilà, je crois et je voudrais faire croire à ce genre de scénario. Donc moi, ma vision pour l'avenir du numérique, elle va se situer très clairement du côté du scénario génération frugale, hein. Matiner un peu du scénario coopération territoriale et vraiment pas du côté du pari réparateur qui, comme son nom l'indique, est un pari, et je crois qu'il est risqué et qui sera fait par ceux qui peuvent mettre une mise, c'est-à-dire par une petite minorité. Voilà. Donc en gros, ouais, si je veux résumer ma vision des choses, critique, mais avec une forme d'optimisme, si on inclut le numérique dans des scénarios d'évolution et de transformation écologique de la société suffisamment ambitieux.
On espère que cet épisode t'a plu. On revient bientôt avec de nouveaux épisodes. Pour te tenir au courant, n'hésite pas à nous retrouver sur LinkedIn sous Tiffaine Brigand et Perrine Tanguy ou sur les pages LinkedIn et Instagram de Déclic Responsable. Enfin, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager et à mettre 5 jolies petites étoiles sur ta plateforme d'écoute. On te souhaite de passer une belle journée. Et si toi aussi tu souhaites faire partie de la solution, on t'invite à devenir adhérent de la bibliothèque ou médiathèque la plus proche de chez toi et y découvrir les différents projets qu'elle porte en matière de numérique responsable. Et pas que. À très vite !